Vous voyez, j'ai effectué une thèse en anthropologie sociale sur les relations qu'on entretient avec des machines anthropomorphes, c'est-à-dire qui, à divers degrés, ressemblent ou sont conçues pour être capables d'intégrer à leur fonctionnement les relations qu'on peut avoir avec elles. Donc, ces recherches ont d'abord porté sur un champ très visible hein, en robotique, la construction des robots humanoïdes. Et donc, ces recherches, je les ai menées dans des entreprises et des laboratoires qui sont situés en France ou en Angleterre. Alors, elles s'orientent aujourd'hui. Bon, ça a donné lieu, ces recherches sur les humanoïdes, à la publication de cet ouvrage en 2015. Depuis, mes recherches s'orientent désormais vers des systèmes qui ne présentent pas forcément de ressemblance avec le corps humain, mais qui en intègrent les activités, notamment en situation de travail. Mon travail, là, s'est étendu à l'intégration de robots et de systèmes informatiques dans des exploitations laitières robotisées, plus particulièrement une exploitation robotisée en Belgique, dont je vous parlerai plus tard, et plus récemment, la conception de modules de survie autonomes prévus pour être implantés sur la Lune ou sur Mars. Donc ces systèmes, selon moi, ont en commun de donner à voir une façon particulière de considérer les relations entre les humains et les machines dites intelligentes, et ils révèlent deux principales approches en matière d'ingénierie sociale qui peuvent être facilement traduites par le biais de deux questions. La première, à quelles conditions peut-on vivre avec des machines et comment vivre dans des machines? Donc, ce qui m'intéresse à ces questions, c'est autant la façon dont, en robotique et en IA, on s'y prend pour construire des relations d'un nouveau genre, que la manière dont elles nous placent devant des choix importants de société. Quelle société s'invente autour des pratiques roboticiennes et de l'intelligence artificielle? Quels choix aurons-nous à faire lorsque nous serons confrontés à ces systèmes enfin, c'est des systèmes très divers, hein, les objets, les interfaces conversationnelles, les objets connectés, les robots en font partie. Et ça concerne aussi des systèmes qui nous permettent d'organiser nos activités. Et donc là, je pense par exemple aux véhicules connectés, aux systèmes de régulation de trafic, systèmes de production industrielle, stations spatiales, et j'en passe. Donc, pour commencer, j'aimerais qu'on se demande comment la robotique et l'IA se sont intéressées aux relations sociales. Donc, je ne vais pas raconter une histoire de la robotique, hein, parce que bon, les ingénieurs font ça beaucoup mieux que moi, et ils en ont pris l'habitude. Et ce qu'ils montrent, c'est une façon qu'ils ont de regarder leur métier un peu comme l'aboutissement d'une longue et linéaire évolution des techniques. Ils reproduisent un peu en cela des schémas anciens, mais issus de la modernité, qui représentent les techniques sous une forme linéaire qui va du plus simple au plus complexe, et dont on retrouve des représentations un peu amusantes comme celle-ci, par exemple, que j'avais trouvée lors d'un séjour de recherche au MIT et dont ils avaient fait des t-shirts. Donc, la robotique sociale, en particulier, s'est constituée à partir de plusieurs choses, déjà sur des mythes. Le mythe de construire des machines vivantes hein, et donc de domestiquer la vie. Hein, on peut penser à Pygmalion, un mythe qui revient très fréquemment lorsque les roboticiens parlent de l'histoire de la robotique et de l'IA. Mais bon, plus largement, l'imitation de la nature constitue un moyen d'acquérir des connaissances fondamentales sur les modèles imités. Et donc, c'est une démarche moderne, certes, mais qui est à l'origine de leur travail. Et donc, autre argument qui est plus récent, celui-ci, c'est un argument qui vient du Japon et qui est l'argument démographique du vieillissement dans les sociétés post-industrielles.
Votre présentation ne se déroule pas pour moi.
Ah.
Nous en sommes toujours au premier slide.
Ah, ça, c'est étonnant. Ben écoutez,
Ah, c'est mieux, voilà, on y arrive. Oui, c'est bon, on est sur la démographie que vous évoquiez. Oui.
D'accord. Et donc là, on est passé du titre à la démographie, en gros, alors.
Oui, assez, enfin, oui, sans réelle transition, mais.
D'accord, c'est très curieux. Je pense que c'est Teams qui fait des siennes, je pense. Bon.
Probablement.
D'accord. Je peux faire très rapidement un PDF si vous le souhaitez, mais ça va nous faire perdre quelques minutes, quoi.
Ou alors, si vous voulez bien nous le faire passer après le séminaire.
Oui,
ça serait génial. Merci beaucoup.
Bon, surtout des photographies, hein, à part quelques graphiques, c'est quand même surtout des photographies. Donc voilà, c'est un argument qui perd un peu de sa valeur aujourd'hui parce que c'est une question, parler du Japon et de la question du vieillissement, c'est aussi évoquer implicitement des questions liées à l'immigration de travail et donc à des choses assez complexes qui ne s'appliquent pas de la même façon, qui ne sont pas considérées de la même manière d'un pays à l'autre, d'une région du monde à l'autre. Et donc, c'est un argument qui, me semble-t-il, aujourd'hui perd un peu de sa valeur aujourd'hui. Alors, quelle est la vocation du robot dit social? A-t-il vocation à remplacer l'humain ou a-t-il vocation à lui offrir des nouvelles possibilités pour agir? Donc, je vais vous présenter quelques cas qui viennent de mes recherches et qui devraient nous permettre, j'espère, d'avoir une idée un peu plus claire à propos des implications potentielles de la robotique et de l'intelligence artificielle sur les relations sociales elles-mêmes, en commençant par les agents robotiques autonomes. Donc, la question de la reproduction artificielle de l'humain, ça intervient comme... on l'a vu avec l'argument démographique, comme une nécessité de premier ordre qui permet d'offrir une continuité, une perspective d'avenir à notre modèle social. Donc c'est un argument qui a conduit vraiment beaucoup de recherches en robotique à s'intéresser très près à la cohabitation entre les humains et les robots et donc à ce que j'avais appelé il y a quelques années la suppléance du lien social. Comment on va... continuer à avoir des relations sociales ordinaires en s'appuyant sur des objets qui sont capables de les mimer, d'en comprendre les ressorts et de faire en sorte qu'on ait des interactions naturelles avec eux. Donc, une première méthode pour envisager de combler le besoin manquant de personnes accompagnant les personnes dépendantes, ça repose donc sur la création d'agents, la plupart du temps anthropomorphes, mais pas seulement, qui soient capables donc d'agir, d'interagir directement avec les humains. Donc, là, je change de diapo, vous la voyez?
Non, pas encore, visiblement.
D'accord, bon. Et si je passe sous ce mode-là,
oui,
vous les voyez?
Là, c'est très bien. En fait, c'est ça. Là, vous êtes sur le bon mode. On arrive à voir vos différents slides.
D'accord. Donc, il faut que je reste sur ce mode-ci. Alors. Donc, alors, là, par exemple, on a un projet de recherche qui a été mené dans les années 2010 en Angleterre et qui est à mi-chemin entre la robotique et le théâtre de marionnettes. Et c'est un robot qui s'appelle Heart, comme cœur en français. Et ça participe d'une mise en relation des humains et des machines dans un espace public en posant deux questions très simples. Est-ce qu'on peut aimer un robot et un robot peut-il nous aimer à son tour? Donc, c'est un projet qui a été conçu par un roboticien et marionnettiste qui s'appelle David McGoran et qui travaille en fait un problème bien connu en robotique qui concerne l'acceptation et le rejet des machines anthropomorphes. Et donc, ça a été théorisé par Masahiro Mori, un roboticien japonais, dans les années 1970. Et l'idée, donc, c'est de dire que plus un robot nous ressemble, plus on va être enclin à accepter sa présence, à la tolérer, voire à l'apprécier. Mais à un moment donné, quand le robot va révéler par un geste sa nature mécanique, on va éprouver un sentiment de rejet, un sentiment de malaise en tout cas, qui va altérer la qualité de l'interaction qu'on va avoir avec lui. C'est un vieux problème en robotique qui est travaillé depuis des années et qui donne des formes un petit peu intermédiaires. On essaie de ne pas trop ressembler, de faire en sorte que les machines ne ressemblent pas trop aux êtres humains, justement pour éviter de tomber dans ce qu'il appelle la vallée de l'étrange. Donc, c'est un robot qui intervient dans un environnement qui n'est pas équipé, qui n'est pas adapté, donc il consiste en une marionnette électronique partiellement autonome, partiellement parce qu'il est incapable de marcher, il dépend de la manipulation de son opérateur pour se tenir debout, bouger les bras, tourner la tête. Mais en revanche, il est capable de détecter la présence d'un objet dans sa main, de le saisir, de cligner des yeux, et il manifeste une sorte d'état interne, une respiration qui est rendue manifeste par une pulsation lumineuse dont le rythme s'accélère ou ralentit en fonction de la façon dont la machine est manipulée par une personne. Donc la procédure, alors là, je vais peut-être, dans ce mode-là, on arrivera à voir la vidéo. Est-ce que vous voyez une vidéo, là?
Oui,
oui,
oui, oui.
Tout à fait.
Ah, très bien. Parfait. Alors, donc la procédure, elle s'inscrit dans une animation de caractère et la marionnette évolue dans l'espace grâce à son manipulateur jusqu'à rencontrer une personne qui s'y intéresse. Alors, le marionnettiste va à sa rencontre, lui parle et finit par lui confier le robot en plaçant soigneusement la machine dans ses bras. Et alors, il va observer la façon dont l'autre personne va réagir à cette présence. Et donc, lors d'une interview, il me disait qu'il constatait des forts sentiments d'empathie, que des forts sentiments d'empathie émergeaient de l'interaction entre les robots et les personnes auxquelles il confiait la machine. Donc, c'est une situation d'interaction créée par le roboticien, mais qui forme une sorte d'analogie entre la présence du robot et celle d'un nouveau-né. Comme vous pouvez le voir, cette machine est petite, elle a l'air fragile, elle nécessite d'être portée pour pouvoir se déplacer, et elle a ce réflexe de pouvoir enserrer les objets qui rentrent en contact avec la paume de sa main. Donc si vous lui donnez votre doigt, par exemple, le robot va saisir votre doigt un peu comme le ferait un nouveau-né. Ça déclenche chez les gens des sentiments d'empathie très forts, la remémoration de l'image d'un nouveau-né, et ça encourage l'émergence d'une forme particulière d'empathie envers la machine. Un autre robot qui fonctionne un petit peu sur un mode analogue, c'est le robot Paro, un robot japonais qui a l'allure d'un bébé phoque et qui manifeste une sorte de sentiment de satisfaction lorsqu'on le caresse. Un animal de compagnie électronique qui est bardé de capteurs, il est immortel, il est inoffensif, sa fourrure est hypoallergénique et toujours soyeuse. Il suffit d'insérer une petite tétine dans sa bouche en plastique pour le recharger et alors on peut profiter de sa présence. Et celui-ci donc réagit au toucher, il est également doté d'une mémoire qui, dit-on, assimile les réactions humaines à son comportement afin de produire, de reproduire ce que son utilisateur préfère. C'est un robot qui instaure une forme de communication particulière avec son utilisateur, une forme de communication qu'en anthropologie on dit analogique, suite aux travaux de Gregory Bateson, et qui est assez caractéristique de la façon dont on communique avec nos animaux de compagnie, par exemple. Donc, c'est un contact avec la machine qui s'établit de manière itérative et récursive à travers l'échange et l'évaluation des réactions du robot par l'utilisateur, telle qu'elle dépend d'elle-même de différents stimuli que celle-ci produit. Des caresses, des paroles, des gestes de réprimande aussi, parce qu'il arrive qu'on puisse avoir envie de frapper ce charmant animal électronique. Et l'animal s'en souviendra par ailleurs. Cet objet donne à voir plusieurs enjeux de la robotique sociale, l'apprentissage, la substitution, la communication sensorielle, et ce sont des machines qui trouvent de plus en plus leur place dans les maisons de retraite aujourd'hui. Dans les années 2012, par exemple, il y avait un peu plus de 2000 robots Paro qui étaient utilisés en maisons de retraite. Donc, on voit un aspect des recherches sur les mécaniques relationnelles qui porte sur la qualité d'interactant imputable à une machine. Or, en la manière, il faut remarquer quand même que les robots sont en fait de piètres partenaires de communication, de jeu, etc. Ils instaurent des problèmes de communication assez évidents. On a fait l'expérience, par exemple, avec Denis Vidal au musée du Quai Branly et avec des partenaires scientifiques de Létis de Sergi Pontoise. On avait construit et mis le robot Berenson que vous voyez à l'écran sur le plateau des collections du musée du Quai Branly pour voir un petit peu, pour deux choses en fait. D'abord pour essayer de voir comment on pouvait apprendre à une machine à regarder des œuvres d'art et éventuellement à éprouver une aversion ou un sentiment de... Enfin, d'avoir un sentiment esthétique. On voulait lui donner un sentiment esthétique artificiel. C'est un travail d'intelligence artificielle qui est mené par Philippe Gossier à Létis. Et donc, ce robot se baladait sur le plateau des collections et essayait de déterminer si les objets qu'il voyait au musée du Quai Branly lui plaisaient ou pas. C'est un visiteur artificiel, en fait. Sauf que ce comportement-ci n'était pas tellement évident pour les visiteurs du musée qui croisaient son chemin. Et on en a vu beaucoup essayer de comprendre un petit peu ce que c'était que cette machine. Et s'adressant à lui comme si... donc ça nous a beaucoup étonné. On m'annonce que j'ai une mauvaise qualité du réseau. Et on s'est rendu compte, en fait, c'était extrêmement difficile en interagissant avec une machine de ce genre de savoir à quoi on a affaire, en fait, et que c'est tout l'enjeu de l'interaction, finalement. C'est pas on est très loin d'une interaction naturelle, on est dans un test quasiment permanent où on va essayer de chercher quelles sont les limites du cadre d'interaction possible et expérimenter les limites pendant l'interaction. Donc, et la question qui est centrale, c'est à qui on a affaire, en fait. Ce sont des choses qu'on a vues également à l'œuvre avec les travaux d'un groupe de recherche dont je fais partie à Nancy, avec l'INRIA, qui s'appelle le groupe CIFIN, et où on a fait des expériences avec une lampe de bureau robotisée, et on s'est demandé est-ce que des mouvements programmés sur cette lampe peuvent être compris, peuvent être porteurs de sens pour les gens. Donc on a fait plusieurs expériences autour de cette machine, et on s'est rendu compte qu'en fait, même dans une situation où on dit aux gens qui sont pas dans une interaction de type social, en les interrogeant, on se rend compte que spontanément, ils vont quand même imputer à la machine des capacités de perception qu'elle n'a pas, et aussi des émotions comme la peur, la curiosité, l'étonnement, la méfiance, etc. Et donc tout ça pour dire que ben voilà, on ne sait jamais vraiment à quoi on a affaire quand on est confronté à ce genre de machine. Il y a d'autres systèmes, donc je disais vivre avec des robots, mais aussi vivre dans des robots. Et les roboticiens réfléchissent en fait à l'automatisation, par exemple, de la surveillance et de l'assistance des personnes âgées à leur domicile. Et c'est dans cette perspective que par exemple, naît le projet de recherche PAL. PAL, c'est Personally Assisted Living. Donc là, il n'est plus question d'environnement naturel, d'anthropomorphisme, d'acceptation des technologies robotiques, mais plutôt d'environnement augmenté par l'emploi de systèmes électroniques afin d'offrir aux personnes visées par ce projet de retrouver un peu de leur autonomie perdue. Donc sol intelligent, caméra, système d'altimétrie, de détection des déviations pathologiques à partir de profils comportementaux, déterminés de manière automatique, là, c'est ce que vous voyez à droite de l'image. Interface de communication, agent robotique autonome capable d'interagir entre guillemets de manière sociale, en détectant et en manifestant notamment des émotions basiques. Hein, ces différents éléments participent d'une approche qui consiste à adapter l'environnement des personnes afin d'assurer le bon fonctionnement du dispositif robotique. Donc ça, ce sont des choses qui déplacent un peu le problème de la mesure dans un environnement domestique, et c'est une approche qui relaie la question des limites de l'espace privé qui est posée hein, plus généralement par les nouvelles technologies, et ça pose finalement le problème des limites de l'autonomie elle-même. Comment par exemple accepter de vivre au cœur d'un environnement conçu spécifiquement pour scruter le moindre de nos gestes? Est-ce qu'on peut raisonnablement qualifier d'autonome une condition d'existence fondée sur un tel enregistrement? Donc, cette approche participe également d'une réflexion sur les modes de substitution des rôles jusque-là réservés aux cliniciens et plus généralement aux soignants. Et elle pose aussi la question de la sociabilité minimale auxquels pourraient prétendre de tels substituts technologiques. Alors en réalité, ce sont des systèmes de supervision à distance qui prennent bien des formes, et on les retrouve déjà hein, dans des secteurs très divers des activités humaines. Alors par exemple, l'exemple très très connu, c'est l'exemple de la ligne 1 du métro parisien, qui est fondé sur un système de commande et de contrôle qui mêle surveillance et intervention par un nombre limité d'opérateurs. Ce sont aussi des systèmes de commande et de contrôle qui peuvent être utilisés en milieu urbain, et ils le sont également dans des exploitations agricoles. Donc, j'aimerais vous présenter rapidement. Est-ce qu'il me reste encore un petit peu de temps?
Oui.
Très bien. Donc, j'aimerais vous présenter les résultats d'une étude que j'ai menée en collaboration avec l'anthropologue belge Séverine Lagneau en Belgique. On a eu le soutien de la Fondation Thyssen pour cette étude. Et c'est une étude qui porte sur la robotisation des exploitations laitières. Elle s'est appuyée sur des entretiens qui ont été menés auprès des fabricants de robots, mais aussi auprès des formateurs en lycée agricole et d'utilisateurs. Elle comprend aussi des phases d'observation chez un éleveur belge dans une exploitation laitière d'environ 120 vaches qui est située dans le sud-est de la Belgique, à la frontière avec le Luxembourg. Donc, l'éleveur qu'on est allé voir, il a très rapidement été intéressé par les robots de traite, parce que c'est un amateur de nouvelles technologies, et il a été également séduit par les promesses d'accroissement de la productivité laitière qui a été formulée par les fabricants du système. En fait, ces fabricants... leur projet débute avec la volonté de soulager l'éleveur en allégeant sa charge de travail et en lui garantissant d'augmenter sa productivité. Moins de travail, plus de lait. Et donc, c'est à travers l'articulation de deux principales dimensions, l'augmentation de la qualité de vie et l'augmentation de la performance de son exploitation, que se sont d'abord développés les systèmes robotiques de traite ces 10 dernières années. Bon, en fait, vous vous en doutez, hein, on a affaire ici à un récit ordinaire, finalement, de l'innovation technologique qui s'inscrit dans une évolution des techniques que les fabricants comprennent comme linéaire et sur laquelle il semble impossible de revenir. Ils se disent qu'une fois que ces technologies se seront vraiment opérationnelles et mises en place, on ne pourra plus s'en passer. On n'aura jamais l'occasion de revenir en arrière, pour revenir à d'autres modes de production du lait, par exemple. Cette exploitation laitière, elle... elle transforme le rôle en fait elle transforme le travail de l'éleveur, mais pas seulement son travail. Elle transforme aussi l'activité des vaches dans la stabulation, et elle implique aussi des transformations sur le plan de l'infrastructure du bâtiment. Et donc, ce récit d'innovation, en fait, il n'est pas aussi, c'est pas aussi rose qu'ils le disent. L'éleveur nous confie, par exemple, qu'il lui a fallu une bonne année avant que la machine devienne un tout petit peu plus performante, et il a fallu complètement réorganiser la circulation de ces animaux. Au début, nous a-t-il dit, quand la machine travaillait, elle ne travaillait pas bien. Mais en plus, des fois, elle travaillait même pas du tout. Il fallait tout le temps intervenir. Et comme ce sont des machines qui sont en activité 24 heures sur 24, vous pouvez aussi bien revenir l'après-midi qu'en pleine nuit, après avoir reçu des notifications du système sur votre téléphone portable. Donc, c'est pas du tout aussi efficace au départ que ce qu'on lui avait promis. Ça implique aussi que l'activité de l'éleveur et celle des animaux fassent l'objet d'une modélisation, mais aussi d'une sorte de programmation. Donc, il faut organiser la circulation des animaux, mais aussi il faut penser à toutes les activités de l'éleveur dans la stabulation. Et tout ça, ça donne à l'éleveur un nouveau rôle. L'éleveur est plus tellement éleveur, il devient manager de troupeaux, en fait, et il pilote ses animaux dans un système à partir des informations qui lui sont fournies par le système lui-même. Donc, le système génère des données pour chaque animal, hein, grâce à des capteurs qui sont disposés dans les tables et parfois sur les animaux eux-mêmes, dans leur collier. Et ces données sont ensuite comparées par un logiciel avec les résultats de performance attendus pour chaque animal et les plannings que propose aussi l'éleveur. Et donc, tout ça va faire en sorte que les animaux vont circuler dans l'étable à travers un système de portes intelligentes qui vont orienter l'animal soit vers le robot de traite s'il a une permission, si le système lui donne la permission d'aller à la traite, soit de l'envoyer dans d'autres endroits pour qu'il puisse se nourrir, se reposer, ou dans le cas de cette exploitation-là, ça n'arrive pas tout le temps, de l'envoyer en pâture à l'extérieur du bâtiment. Il faut prendre en considération que ces systèmes de traite peuvent très bien fonctionner dans des environnements complètement fermés et donc avec des animaux qui ne voient jamais, le jour. En fait. Je peux vous montrer un petit exemple de ce que ça donne pour une vache. J'ai pas l'image, une caméra, et elle a très... Donc l'animal arrive, là il vient de la zone la zone d'alimentation, et il passe à travers une première porte. Voilà, là elle passe. Là vous voyez à droite quelque chose qui permet d'orienter l'animal soit à gauche ou à droite. Là l'animal a la permission de traite, donc il va entrer dans une aire d'attente. Par contre, quand je suis dans ce mode d'affichage, je ne peux pas avancer la vidéo. Donc il arrive dans l'aire d'attente pour attendre son tour. Il va faire la queue pour entrer dans le robot de traite. Donc voilà, l'animal rentre dans le robot de traite, la porte se referme. Ensuite, on lui donne des granules. Alors ça, c'est intéressant parce que il s'agit pas seulement au système d'apprendre à faire des statistiques, par exemple, pour donner des conseils pertinents à l'éleveur ou renvoyer des alertes pertinentes vers l'éleveur. Il s'agit aussi aux animaux d'apprendre à aller vers le robot. Et pour cela, donc, on va créer des renforcements positifs à partir de la nourriture. Donc à chaque fois que l'animal va dans le robot de traite, on lui donne des petites granules que l'éleveur appelle des bonbons. Et les vaches adorent ça en général, et donc ça les incite à retourner tout le temps vers la traite, et donc ça fait d'elles des animaux entre guillemets volontaires. Elles y vont d'elles-mêmes vers le robot. Et on n'est pas obligé de les forcer à y aller, et du coup vous n'êtes pas obligé de les traire deux fois par jour. L'animal peut très bien y aller s'il en a envie et si le système lui accorde la permission d'y aller. Donc, voilà, parce que si une vache est gourmande, par exemple, et qu'elle veut tout le temps retourner vers le robot de traite, le système va le remarquer, donc empêcher l'accès vers le robot. Excusez-moi. Ensuite, une caméra laser va poser les gobelets sur chaque pie. En les détectant. Il faut savoir que les vaches sont quand même bien calibrées pour les gobelets, ce qui fait que la caméra a quand même plus de facilité pour repérer les pies. Il y a toute une sélection génétique qui s'opère pour avoir des vaches un peu standard quand même. Ça facilite la tâche du robot aussi. Donc une fois que la traite est finie, les gobelets sont retirés par la machine. Une porte s'ouvre et ensuite l'animal est réintroduit dans la stabulation. Il va passer à travers une deuxième porte, là vous allez le voir un peu plus tard. Ah oui, on nettoie aussi, on nettoie les pies, on nettoie la caméra après. Voilà, l'animal sort. Et il va passer donc par une deuxième porte, là, que vous voyez ici, qui s'appelle une smart gate, une porte intelligente. Et comme on est le matin, elle va être envoyée vers l'extérieur en pâture, où elle va passer le reste de la journée avant d'entrer le soir. Donc, faut dire qu'un tel système hybride repose sur la mesure de l'activité et l'interprétation des données qui sont enregistrées. Et donc ça, c'est une façon encore de mesurer l'activité qui paraît en fait tout à fait transposable d'un milieu sociotechnique à un autre. C'est des choses que, par exemple, on a vu avec le projet PAL dont je parlais plus tôt, et c'est des choses aussi qu'on voit dans l'exploitation laitière robotisée. Donc, pour conclure, tous ces éléments nous posent en fait plusieurs questions. La question d'abord, selon moi, de la communication avec les systèmes dits intelligents. Comme je vous le disais, c'est difficile d'interagir naturellement avec les machines intelligentes. Il y a un effet de boîte noire, mais il y a aussi une fascination pour cet effet de boîte noire pendant l'interaction qui rend invisible le travail des concepteurs de machines et leurs propres représentations, finalement. C'est des représentations de ce en quoi consistent des relations sociales, mais, et ces représentations, elles sont culturellement ancrées. Ça a un effet, c'est celui d'invisibiliser la finalité exacte de leurs objets, au fond, et ça rejoint la question qu'on se pose sans cesse quand on est confronté notamment aux humanoïdes. Qu'est-ce qu'ils font au juste ? Quelle est leur finalité ? Quel est leur but à ces machines ? Et dans les faits, donc, on voit que l'interaction avec les robots implique très souvent un échange qui est fondé sur la possibilité même de communiquer, essayer de trouver les limites du cadre conçu pour la communication. Et une fois que ce cadre est établi, on voit souvent des gens essayer de leur apprendre tout un tas de choses. Et puis tout un tas de choses, mais aussi n'importe quoi, en fait. Par exemple, je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'agent conversationnel Tai, sûrement l'agent conversationnel de Microsoft, qui très rapidement a appris à devenir raciste, en fait. Et donc, ces machines impliquent également qu'on apprenne à s'en servir. J'avais été frappé lors d'une expérience menée au Bristol Robotics Lab de voir que... dans une situation où un robot doit apprendre de l'échange avec les humains avaient tendance à robotiser leur façon de parler en pensant mieux être compris du robot. Donc il y a aussi un apprentissage, il n'y a pas seulement un apprentissage de la machine, il y a aussi un apprentissage de l'humain à s'adapter finalement, et de l'animal, on l'a vu aussi, à s'adapter aux nouvelles contraintes qui se présentent. C'est des machines qui impliquent également qu'on apprenne à interpréter leur activité, à réinterpréter des fois même les résultats quand c'est nécessaire. Par exemple, dans le cas de l'exploitation laitière, dont je parlais à l'instant, on a vu des animaux qui revenaient, un animal en particulier, qui revenait souvent, qui était signalé comme n'ayant pas pu être complètement trait. Donc, l'éleveur recevait tout le temps une alerte à propos de cet animal, et en fait, cet animal avait un pied qui n'était pas standard, et il fallait le brancher à la main. Et donc, le système ne pouvait pas le savoir, et renvoyait toujours la même notification à l'éleveur qui avait fini par réinterpréter le résultat. Et donc, c'était une catégorie, disons, qui n'existait pas dans le logiciel et qui permettait pas au logiciel d'interpréter le résultat de manière correcte, et donc il lui envoyait des notifications erronées. Autre question, c'est la question de la substitution, finalement. Une question assez classique, hein, c'est est-ce que les robots nous volent notre boulot, finalement ? Et donc, ben, y a bien une grammatisation des tâches, hein, on essaye d'intégrer aux machines une grammaire de gestes, plus largement des actions qui imitent les actions humaines et les améliorent au passage. Par exemple, dans la ferme dont je parlais, il y a tout un tas de tâches que l'éleveur a robotisées dans son propre intérêt, pour éviter d'avoir lui-même à les faire, par exemple. Repousser la nourriture, avancer la nourriture vers les animaux, sur la table quand au fil de la journée, c'est un robot qui le fait. Ça lui évite de passer des heures avec un balai à avancer le fourrage vers les animaux pour qu'ils puissent continuer à se nourrir. Il y a aussi des racleurs qui récupèrent les fesses animales pour faire du biogaz. Et donc, toutes ces tâches-là, elles sont automatisées, et ça lui permet de se concentrer sur les animaux qui nécessitent le plus de soins, par exemple, parce que les animaux sont quand même inégaux dans la stabulation. Il y a des animaux qui sont en souffrance, et si on passe trop de temps à faire ce genre de tâches, on passe à côté de gros problèmes potentiels. Et donc, ça lui permet aussi de recentrer son activité sur les animaux qui nécessitent vraiment son intervention. Donc cette grammaire de gestes, elle existe, hein, mais cette question de la substitution, elle pose quand même une vieille question qui est celle du chômage technologique qu'avait évoqué Keynes dans sa lettre à ses petits-enfants. Il y a plus, c'est que l'automatisation implique une simplification des chaînes humaines de médiation, mais en les remplaçant par une médiation spécifique, machinique, qui crée un effet d'interface, qui crée de la distance entre l'opérateur humain et les humains ou les animaux qui sont pris dans le système. Tout à coup, on n'a plus affaire directement à des humains, on a affaire à une interface ou à un intermédiaire électronique qui va lui alerter l'humain, et à partir de ce moment-là, seulement le contact interhumain ou homme-animal va pouvoir se faire. Donc la substitution, c'est pas le seul enjeu de l'automatisation. Ce sont des machines qui transforment l'activité de travail, hein, qui la réorganisent, qui transforment par exemple l'éleveur en manager, son activité, hein, je vous le disais à l'instant, va se concentrer sur les animaux qui nécessitent vraiment son intervention et laisser les autres vivre leur vie, entre guillemets. Ça implique aussi une charge technologique de travail parce que on passe beaucoup de temps à dépanner ces machines, en fait. À lire les notifications, être tout le temps alerté. Mais ça implique aussi des formes d'innovation autour de nouvelles formes de médiation. J'ai vu par exemple en EHPAD des gens qui utilisaient le robot Paro, celui-ci, le petit phoque, pour comme un objet intermédiaire qui permet de faire parler les personnes. Et donc ils s'en servent comme un outil de médiation. Donc là, il y a plusieurs usages possibles. Hein. Vous pouvez confier ce robot à une personne et puis la laisser seule et puis vaquer à vos occupations parce que vous n'avez pas énormément de temps à passer avec toutes les personnes, tous les patients qui sont en EHPAD. Mais cette personne-ci, en tout cas, va trouver un moyen de parler avec elle en utilisant cette machine. Donc là, c'est un usage assez créatif finalement de ces technologies, mais qui me semble finalement assez rare. Par contre, elles ont parfois un effet sur les infrastructures. Elles impliquent de robotiser l'environnement, d'équiper l'environnement pour assurer le bon fonctionnement des systèmes. Pour assurer le bon fonctionnement des systèmes, hein, les systèmes électroniques fonctionnent souvent par le biais de boucles de rétroaction, et donc ça implique des systèmes qui ont tendance à se clore sur eux-mêmes pour pouvoir fonctionner. Hein. Et donc, on peut se poser quelques questions sur ces systèmes clos, finalement, qui sont aussi qui relèvent d'une écologie de cabine bien connue dès qu'il s'agit notamment des stations spatiales ou des habitats extraplanétaires. La question du coût aussi des infrastructures est évidente. Hein. Par exemple, autour du véhicule autonome, hein, le développement du véhicule autonome implique tout un tas de choses, des capteurs qui sont embarqués sur les voitures, mais pas seulement, hein, des satellites qui leur permettent de naviguer, et puis on parle même de routes dites intelligentes. Sont des systèmes qui sont quand même très centralisés, et on peut s'interroger sur la prise en charge du coût total d'un réaménagement de l'infrastructure, mais aussi peut-être le coût écologique du coup, et comment évaluer. Donc en conséquence, il y a une question que je me pose, en tout cas, à titre personnel cette fois, plutôt que scientifique, c'est est-ce qu'on peut vraiment se débrancher de ces systèmes en boucle fermée et qui sont extrêmement contraignants, extrêmement centralisés? Est-ce qu'on peut se débrancher de ces systèmes? Est-ce qu'on en aura le droit et est-ce qu'on en aura l'envie? Et ça, ces questions-là, ça m'amène à soulever une petite série de problématiques sur laquelle je vais conclure. La fascination qu'on éprouve pour ces machines, elle nous éloigne un peu de certains problèmes, certains des problèmes qu'elles posent. Par exemple, on suspecte jamais que pour qu'un robot ou un système soit en mesure de nous écouter ou de nous voir, il doit pouvoir enregistrer tout ce qui se passe autour de lui. C'est quelque chose que je m'amuse des fois à faire quand je discute avec un de mes amis ou une de mes amies et que machinalement je vois cette personne prendre son téléphone portable. J'ai tendance à dire OK Google ou dis Siri juste pour lui bloquer son écran parce que les dernières générations de téléphones portables ont tendance à réagir immédiatement quand on active les services vocaux Google ou Siri. C'est tout ça pour vous dire que les micros sont ouverts en permanence, hein, y compris sur des robots comme Pepper, par exemple. L'enregistrement est plus ou moins continu. En tout cas, les micros restent ouverts pour permettre à la machine de réagir quand on en a besoin. On ignore également que nombre de ces appareils, finalement, ont besoin pour fonctionner d'être connectés à un réseau beaucoup plus vaste de machines. Les systèmes robotiques et informatiques sont, selon moi, c'est un vieux problème en réalité, des compagnons indiscrets qui posent des problèmes connus qui sont liés à la propriété des données, au commerce des données personnelles et par conséquent au respect de la vie privée. Zahid de Bédjian me semble à bien travailler ces questions. Donc, il ne pose pas seulement un problème de catégorisation, hein, quel statut on peut leur accorder, ou des problèmes d'organisation, comment ils affectent nos activités, comment ils affectent nos relations. Il relève, selon moi aussi, d'une déontologie des pratiques de recherche et de développement en robotique et en intelligence artificielle, comme l'éthique par le design, hein, le fait d'intégrer des valeurs et des principes dès la conception des outils technologiques. Et or, cette déontologie-là, elle émerge hein, dans les laboratoires de recherche publique, surtout en France, en Europe, mais elle est encore très rarement prise en considération lors des phases de conception des agents autonomes et des systèmes hybrides. Et je vais m'arrêter là, parce que je crois que j'ai déjà beaucoup dépassé.
Bien, merci beaucoup. C'était absolument passionnant, je pense, traduire un sentiment partagé. Alors, avant de passer la parole assez vite à Daniel Kaplan pour...